France Culture.
Tout spectacle est une équation. C'est une équation dont on pose les termes et qu'il faut ensuite résoudre. Et qu'il faut résoudre de la façon la plus élégante. Il y a une forme d'élégance dans la résolution de toute équation, surtout évidemment dans les équations du spectacle. Bon, il s'est trouvé tout simplement que là, il y a une équation qui est précise. Il y a des gens qui viennent dîner ou qui viennent pour l'heure du spectacle. Il y a un mécanisme de divertissement, il y a un mécanisme de disponibilité que donne la nuit, que donne le plaisir, que donne le goût de regarder des gens beaux, de regarder des corps, de regarder aussi des images. Et je me suis tout simplement dit que ce qu'il fallait montrer aux gens, c'était un grand livre d'images qu'ils puissent feuilleter comme ils l'entendaient.
Francis Savel, Salieri, 1928-2005, Les métamorphoses d'un artiste flamboyant. Un documentaire de Vincent Purenne, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.
Et maintenant, mettons-nous dans l'ambiance, allons au cabaret.
Oui, c'est moi, me voilà, je me ramène. J'ai vu longtemps.
Tout commence avec Michou. Michou, il vient du Nord, il a ouvert un petit restaurant à Paris qui marche pas très bien, il le transforme en discothèque, ça marche un peu mieux.
Jacques Pessy, journaliste.
Et il est très copain avec Eugène, qui est un teinturier de la rue des Martyrs, juste à côté. Et tous les deux, ils parlent spectacle et ils commencent à rêver d'un spectacle de transformiste, ce qui n'existe pas à Paris, pratiquement. C'est très mal vu à l'époque. Alors, il décide un soir, pour s'amuser, pour le plaisir, de prendre des costumes et de faire des imitations de personnalités de l'époque, Joséphine Baker, Mistinguette, quelques autres. C'est un véritable succès. Et c'est comme ça que Michou commence à se dire, tiens, si on faisait un vrai spectacle. Eugène dit « Je te suis dans l'aventure, il faut trouver un metteur en scène ». Et là, il rencontre un garçon, Lucien, et Lucien a un copain qui est Franz Salieri, Francis Savel. Et c'est comme ça qu'avec trois Francis sous, Salieri, Lucien, Eugène et Michou vont monter Michou. Et c'est un véritable triomphe.
Archivina, 1970.
Succès foudroyant cette année, les spectacles burlesques de travestis. Ce soir, 80 rue des Martyrs, chez Michou.
Il y a du monde là-haut, Chantal,
ouais. Un peu, oui. Ça vient de sonner.
Regarde un peu, est-ce que je ressemble à France Gall?
Oui, ça va.
Et puis un jour, Franz Salieri décide de reprendre sa liberté. Et c'est comme ça qu'avec Eugène, il prend avec lui, il va créer la Grande Eugène. Au départ, la Grande Eugène, c'est un tout petit spectacle, rue d'Argenteuil. Et puis en 70, il prend une salle un peu plus grande, et puis c'est un triomphe.
C'était en 1970, j'en avais assez déjà à cette époque-là de la revue traditionnelle, des plumes et des trucs comme ça, tout ça était d'un ennui mortel.
Francis Savel dans À tout cœur, juin 1986.
Par ailleurs, je trouvais qu'il y avait une sorte d'éclosion de liberté à cette époque-là. Il faut se retrouver, parce que maintenant, la liberté a l'air d'être une chose, la liberté des mœurs, la liberté du plaisir, la liberté de la volupté, a l'air d'être une chose reçue, d'être une chose, enfin, relative. D'ailleurs. Mais enfin, être une chose qui... Mais ça a été un combat, ça a été une volonté de sortir de l'étau, de sortir d'une certaine forme d'étouffement bourgeois. Et lorsque nous avons fait ça, en 1970, c'était évidemment une forme de liberté. Et ce spectacle était basé sur une forme de dérision, sur une forme de presque de méchanceté, j'allais dire, n'est-ce pas ? Et j'avais pris comme, si je puis dire, comme liminaire du spectacle, la phrase de Baudelaire, « Voudrais que les acteurs fussent montés sur des patins très hauts, qu'ils portassent des masques et des porte-voix, et que les rôles de femmes fussent joués par des hommes. »
Salieri, à l'époque, insiste sur le fait que ce n'est pas un spectacle de transformiste. C'est tout à fait différent pour lui. C'est l'image de l'homme qui s'habille en femme et ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça que démarre ce spectacle. Alors, qu'est-ce que c'est ce spectacle? Ce sont des tableaux inspirés des légendes du siècle, de Mistinguette à Marlène Dietrich, en passant par quelques autres. Et ils sont habillés de façon un peu particulière, ils sont maquillés à l'extrême, et surtout, les numéros sont réglés à la seconde près. C'est un immense travail de playback, de répétition, pour que ce soit un spectacle totalement parodique de cette époque-là. Et c'est là le succès de la Grande Gêne. Car il y a Michou d'un côté avec des petits moyens, et là, on est dans le grand spectacle. Et du jour au lendemain, tout le monde se bouscule à la Grande Gêne.
En fait, la première fois que j'ai rencontré le staff de la Grande Gêne et Francis Salieri, parce que pour moi, il s'appelait le metteur en scène de la Grande Gêne, il s'appelait Francis Salieri. J'étais très copain avec tout un tas de garçons qui travaillaient chez Cardin, comme vendeurs dans les boutiques, comme mannequins, enfin qui étaient autour de Cardin. Et on sortait beaucoup ensemble et ils m'ont dit « Ah, on va t'emmener dans un endroit que tu vas adorer, qui s'appelle la Grande Gêne, qui était au Palais Royal, rue d'Argenteuil. » J'ai adoré.
Jean-Claude Dreyfus, comédien.
C'est un spectacle très agréable, très chic, très élégant en même temps. Alors, je ne l'ai pas rencontré ce jour-là, Francis. Mais en reprenant, j'avais un manteau. Je suis désolé de le dire, parce que j'ai honte un peu maintenant. C'était il y a très longtemps, j'avais un manteau de fourrure qui était très long, qui était jusqu'au pied, qui était en loup. Non, ça me fait de la peine de dire ça. Vous allez le couper. Non, ne le coupez pas. Et je vais rechercher mon manteau que j'avais laissé au vestiaire. Et la jeune femme qui était au vestiaire, Chantal, elle s'appelait. Je l'ai su par après, elle s'appelait Chantal, qui était la maîtresse du producteur, hein, qui s'appelait Gérard Béchu. Et j'ai dit, je volubile, j'adore. Oh, c'était formidable ce spectacle, j'ai passé une super soirée et tout. Qu'est-ce que j'aimerais faire un truc pareil ? Elle me dit, ça ne tient qu'à vous. D'ici quelques semaines, nous allons changer, déménager et changer de spectacle. Nous partons rue de Marignan, aux Champs-Élysées. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et tout d'un coup, paf, c'est comme ça que je suis arrivé avec mon carton à chapeau. Parce que j'avais déjà fait des choses de transformisme rue de Marignan à la Grande Gêne, et là je rencontre le metteur en scène, Francis Salieri. Quoi, c'est comme si j'étais devant Hemingway, un barbu, à barbe blanche, très sympathique, qui a le ventre un peu en avant, le torse bien développé en avant. Et il me fait passer, je sais même plus, je m'en souviens même plus, s'il me fait passer une audition ou pas, je me souviens pas. Le seul truc qui était un peu bizarre et curieux, c'est que je retrouve là Jérôme Nicolin. Dans la petite compagnie dans laquelle j'étais, où je faisais du travesti, on a joué au collège chez les oratoriens. Et il y a un jeune homme qui était venu me voir, fasciné par ce que je faisais, qui s'appelait, bon, Jérôme. Il était venu se présenter en me disant, ah, un jour, je voudrais bien faire avec des grands yeux bleus et tout. Et on s'est retrouvés à la Grande Gêne, devant Francis Salieri, et il est devenu Belle de Mai. Et moi, Erna von Scratch. Et donc, voilà, j'ai connu Francis. Voilà, c'était fait.
C'est la première fois à Paris qu'il y a une salle aussi somptueuse pour ce genre de spectacle. Alors là, il faut des moyens financiers. Et Salieri, il est aidé par son beau-frère, Tony Hadzi, qui lui ouvre vraiment son carnet de chèques. Et il va créer une salle, mais fabuleuse. Il y a la technologie du son, des lumières. Il y a des décors qui changent tout le temps. Il y a 400 projecteurs. Et il ouvre la Grande Gêne avec 11 personnes sur scène. Et du jour au lendemain, ça devient le spectacle le plus suivi à Paris.
Il faisait les décors, il faisait les costumes, il faisait la mise en scène. Enfin, il savait ce qu'il voulait, très directif. Et il y avait un chorégraphe quand même qui faisait les chorégraphies, mais moi, je faisais tout très mal. Et puis j'avais un caractère de merde, vraiment de chien méchant. J'étais assez agressif à cette époque-là. C'est dans la prétention.
Et du coup, ça pouvait créer des tensions avec lui, ou il avait une personnalité
non,
un peu forte?
Non, parce qu'il était très souple d'avoir des gens qui étaient un peu caractériels quand même. Lui-même étant un peu caractériel, et puis on s'entendait bien, parce que il y avait quand même Eugène qui était la vedette du show, et avec qui je m'entendais pas du tout au bout d'un moment. Il était un peu antisémite. Eugène Couvry, il s'appelait, et il était un peu alcoolique. Non, Jérôme, Nicolas, moi et Francis, on était un petit trio assez complice au bout d'un moment, quand on sortait la nuit, le soir, avec Francis.
Vous le fréquentiez en dehors de la Grande Gêne.
Tout à fait. On draguait ensemble, on servait d'appât, parfois, aussi.
parmi les tableaux les plus étonnants, il y a cette parodie de Marlene Dietrich où on entend l'ange bleu chanter, où l'on voit des images autour qui évoquent le Berlin des années 28-30 quand elle débutait, quand elle était encore totalement inconnue. Et ça marche parce que c'est une reconstitution parfaite et parodique, comme tous les tableaux de la Grande Eugène. Il y a un autre tableau qui, avec quatre personnes qui dansent, qui parodie les Colandimes, qui était la vedette de l'époque. Et puis, le tableau le plus étonnant, celui qui a fait le plus grand succès, c'est le final. C'est une parodie de scandaleuse qui se rapporte au Christ sur l'air de la 9e de Beethoven. Et ça, celles et ceux qui ont vu la Grande Eugène ont été marqués par ce tableau parce qu'il fallait oser se moquer du Christ, il fallait oser mettre Beethoven dessus. Et il y a un jeu de lumière comme on ne voit pas à l'époque. C'est tout à fait novateur. D'ailleurs, ça coûte une fortune. Et Franz Salieri engage un directeur, Jacques Collard, qui n'est pas n'importe qui. En fait, il connaît le tout Paris, et il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit l'adaptation française d'Hello Dolly. Donc, il connaît beaucoup de gens, il dirige des restaurants qu'il anime, donc ces célébrités, il va les amener à la Grande Eugène. Et du jour au lendemain, la Grande Eugène devient le lieu qu'il faut voir à Paris. Il faut dire que c'est une époque très particulière, car on a besoin de liberté, on s'amuse, c'est la fête tous les soirs dans Paris. La Grande Eugène fait partie du circuit parisien. Qu'est-ce que c'est le circuit parisien à l'époque ? C'est la Grande Eugène, ensuite on va dîner, et ensuite on fait les discothèques du quartier. Il y a Régine, il y a François Patrice, il y a le privé. Et c'est vrai que la Grande Eugène, c'est un passage obligé. Lorsqu'il est à Paris, Aristote Onassis vient à la Grande Eugène, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Salvador Dali. On vient s'amuser simplement avec un spectacle totalement fou qu'on n'a jamais vu à Paris.
Il y avait les Rolls-Royce, les voitures chic et tout. Dans les gens du théâtre, il y avait Chéreau, il y avait Lavelli, il y avait des tas de gens un peu modernes du théâtre.
Est-ce que lui, il allait dans le public pendant le spectacle ?
Ah oui, il était toujours dans le public, il était très mondain. Il aimait bien être... C'est pour ça aussi qu'il faisait ce cabaret, pour être au milieu du public, au milieu des gens huppés de l'époque.
Et ce spectacle va inspirer d'autres spectacles. Tout ce qui est né ensuite de l'Alcazar au Paradis latin et d'autres, c'est parti de la Grande Eugène. Quand on voit, par exemple, un homme habillé de dentelle déguisé en femme, ça s'est jamais fait. C'est la première fois au théâtre qu'on fait ça. Et c'est un succès. Et c'est vraiment une innovation qui a ouvert la porte à beaucoup d'autres aujourd'hui. Alors, il faut savoir aussi que la cage aux folles est née de ça. C'est en pensant à la Grande Eugène et à Michou que Jean Poiret a eu l'idée de créer la Cage aux Folles.
Il y a eu ça, c'était le premier spectacle qui a duré, je sais pas combien, 2 ans et demi. Et puis tout d'un coup, il y a eu la volonté d'en faire un deuxième spectacle. Et là, pour moi, ça a été un moment très particulier parce que c'était très tendu avec Eugène. Et j'ai mentionné si Eugène ou moi. Et il y a eu, bon, le deuxième spectacle où il s'est séparé de Gênes. Ça a peut-être été un peu douloureux, mais le spectacle, là, était vraiment écrit pour nous. Je chantais une chanson qui était en playback, mais c'était moi qui la chantais. Je faisais Sarah Bernard. J'y vais tôt dans l'aiglon. Et puis je faisais un troisième... Je sais plus ce que c'était, le troisième truc que je faisais avec ma voix. Enfin, alors le spectacle a eu beaucoup de mal à démarrer. D'abord peut-être parce que il n'y avait plus Eugène. Et puis on n'était plus des transformistes avec des gros maquillages épais, avec de la paillette qui descendait jusqu'à la bouche et tout, etc. On était plutôt dans le raffinement. Et les gens, au démarrage, je crois, n'ont pas bien compris. Et puis finalement, ça a pris et ça a très bien marché au bout d'un moment. Et ça a duré très longtemps jusqu'au moment où on est parti faire une tournée.
Jean-Claude Dreyfus fait un triomphe et le spectacle à Paris va durer pendant 700 soirs, ce qui est extraordinaire. Il y a 3 versions différentes qui passent 2 fois par soir, c'est 21h et 22h15 et c'est plein à chaque fois. Et puis on décide de faire une tournée européenne et la tournée commence et puis ça se passe mal.
Alors la tournée, elle s'est arrêtée en Italie, on n'a fait que l'Italie et c'est là où nous, il y a une scission... Tout le monde gagnait beaucoup d'argent, mais la production en gagnait beaucoup, beaucoup. Et on gagne bien notre vie, sauf que en Italie, la lire ne valant rien, on a grossi et on a tout dépensé. On s'est acheté des vêtements, des chaussures, des polaroïdes, on bouffait bien, parce qu'on restait à chaque fois un mois dans chaque ville. Ça a duré un an et quelques. Et un jour, nous sommes arrivés, je crois que c'était à Gênes, on arrive dans le théâtre, il y avait marqué sur le fronton, la Grande Eugène, en gros. Bon, normal, ça, hein. Et en beaucoup plus gros, il y avait marqué Francis Salieri. Bon, je ne suis pas hystérique, mais quand même, on rentre dans le théâtre, et dans tout le pourtour du théâtre, là où il y a le bar et tout, le pourtour avant de rentrer dans la salle, il y avait accroché au mur, je vous jure, c'est vrai, il n'y avait que des photos du barbu.
Le barbu qui est...
C'est Francis Salieri. Je dis Hemingway, quoi, voilà. Donc, j'ai tout décroché et j'ai tout cassé. Et là, la césure s'est faite et au bout d'un mois, on est parti. Parce qu'ils devaient aller et continuer après et aller à Londres où ils ont été. Et puis ça n'a pas marché du tout. La chose s'est arrêtée toute seule.
En pleine tournée européenne et aussi prometteuse, pour des raisons financières, parce que c'est vrai que Salieri avait un peu exagéré, dans les décors, dans les lumières, eh bien ça s'arrête. Et on n'entendra plus jamais parler de la Grande Gêne.
Sur le plan visuel, il travaillait comme un peintre. C'était très coloré. Il dessinait les costumes, il dessinait les décors, et donc toute l'ambiance du spectacle, vraiment comme un artiste peintre. Le cabaret, ce que faisait à la Grande Gêne, était une espèce de suivi de sa peinture. Ses peintures, je les ai vues à Jouk. Et je crois pas qu'il en parlait beaucoup, non. Il en parlait, je savais qu'il avait été peintre. C'était comme une autre vie, un petit peu.
Le hasard a placé l'atelier du peintre Francis Savelle au pied de la butte Montmartre, dont quelques poètes et des peintres aujourd'hui illustres firent le prestige.
Journal d'un combat de Guy Gilles, 1964.
Tout près de la place Pigalle, sur un grand boulevard de ce quartier bruyant.
Voix d'Alain Delon.
Il commence aujourd'hui une grande toile, et durant les 4 semaines qu'il réserve à ce travail, nous lui avons demandé de nous laisser tenter d'en suivre le chemin, pas à pas. Le peintre nous a dit peu de choses. Seuls des animaux y seront représentés dans des attitudes d'attente, peut-être des herbes et des branches. Au centre de la toile, le peintre dessine son propre portrait.
Francis Savelle, je ne le connaissais pas. Pierre-François Garcier, marchand d'art, galeriste. Il y avait peu de publications à cette époque, donc il y avait peu de chances de retrouver des critiques de son travail de l'époque. Heureusement, vous avez retrouvé quelques catalogues de ses expositions qui ont permis d'en savoir plus. Et effectivement, Savelle, on se rend vite compte qu'il est dans ce mouvement de la nouvelle figuration des années d'après-guerre. C'est-à-dire qu'après-guerre, l'art recommence assez fortement dans le quartier de Montparnasse. Tout un tas d'artistes reviennent à Paris pour vivre de leur peinture. Et vraiment, sortie de guerre, on est dans une peinture figurative un peu triste, un peu sombre. Il y a peu de peinture, donc les couleurs, c'est des couleurs grises, beiges.
Un autre visage plus anonyme a remplacé celui du peintre. Pourquoi l'union de l'arbre et du serpent? Pourquoi au centre de la toile, le visage du peintre et celui de la mort? Qui dicte ce choix? Les lois qui régissent la création sont obscures. Rien ne peut l'expliquer. Seul ce qui nous est offert nous concerne. À chacun de prendre ce qu'il y verra, d'y ajouter un peu de lui-même.
Savelle a une touche très particulière, une signature artistique où il va cercler assez fortement ses tableaux du noir. Donc c'est à la fois très joyeux par rapport à un Bernard Buffet, parce que il y a plus de couleurs, c'est plus lumineux, mais on sent quand même un côté un peu sombre dans sa peinture. Les sujets sont souvent des nus, des femmes nues. Et après, beaucoup de natures mortes. Il a aussi travaillé sur la tauromachie, donc on sent qu'il a envie de marquer quand même cette période-là par pas une peinture très commerciale, trop facile.
Macha Merrill, en 1967, vous avez tourné une scène avec le peintre Francis Savelle.
Oui.
C'était dans le long-métrage de Guy Gilles, Au pan coupé. On voit le peintre Francis Savelle réaliser un portrait. La scène se situe dans une grande maison en Provence.
C'est ça.
Mais est-ce que vous saviez que 3 ans auparavant, le même Guy Gilles tournait un court-métrage avec Francis Savelle où on le voit peindre dans son atelier un grand format et le peintre ne prononce aucun mot. La seule voix qu'on entend, c'est celle d'Alain Delon, qui se trouvait être la voix off de ce court-métrage.
Oui.
En fait, c'était une commande de Georges Baume, qui était l'agent d'Alain Delon. Et ils lui ont passé cette commande. Je ne sais pas, ils vous en avaient jamais parlé?
Jamais. Et je ne connaissais même pas l'existence de ce...
Oui, oui,
comment est-ce qu'ils se sont connus, Savelle et Guy Gilles? Est-ce que vous savez ça?
Non, ça reste des mystères. La vie de Savelle est parsemée de trous et d'éléments qu'on n'a pas.
Mais enfin, ils étaient quand même des hérétiques,
face au mouvement de la peinture et de l'art en général de leur époque. Ils étaient même, je dirais, peut-être considérés comme réactionnaires, parce que c'était pas du tout la mode, n'est-ce pas, de continuer à faire du figuratif. Alors, il y avait quand même eu avant Bernard Buffet et tout cela, mais justement, ils ont été condamnés pendant une longue période et ils ont été exclus. Hein. Et je pense que Guy était dans cette charrette aussi avec Savelle. Peut-être qu'il y avait une complicité entre eux, justement, de exclus et renégats.
Un matin, Michel descendit dans l'atelier et décida de faire le portrait de Jean. Tout le temps de la pause, il resta immobile et muet au centre de la pièce.
Au pan coupé de Guy Gilles. 1966.
Alors, le pan coupé est peut-être l'expérience la plus bouleversante de ma vie d'actrice, mais aussi de ma vie sociale. Quand j'ai rencontré Guy, c'est le seul réalisateur de toute ma carrière qui m'a dit « j'ai envie de te filmer ». Il ne m'a pas dit « tiens, voilà, j'ai écrit un scénario, il y a un rôle ». Non, il m'a dit « j'ai envie de te filmer ». Et puis, il avait ce sens pictural, très très fort, que moi j'ai beaucoup apprécié chez quelques metteurs en scène.
Hier ou avant-hier, je ne sais plus très bien, je t'ai montré les deux camions de livraison peints en verre acide. C'est le verre des feuilles au printemps. C'est le verre de ma robe. Quelle merveille que le bleu du ciel s'accorde si bien au vert de l'herbe, des arbres, de tout. La moindre couleur m'attire l'œil. La couleur me touche.
Alors on me voit derrière, flou, alors que Savelle est en premier plan et qu'il est surtout net, lui. On voit ce dessin se produire. On n'a pas l'impression qu'il y a une différence entre le tableau et l'artiste.
Il y a comme un dialogue.
Et même presque un autoportrait. Moi, je pense ça. Je pense que les artistes ne font tout au cours de la vie que leurs autoportraits. Il était assez bel homme, ce Savelle. Hein, je ne me souvenais pas, il était jeune surtout. Qu'est-ce que c'est beau, regardez les images. Donc j'apparais dans cette maison. Je ne sais pas si d'ailleurs nous n'habitions pas là, parce que tout ça s'est fait avec des très petits moyens. De qui était cette maison, vous qui êtes plus au courant que moi?
Ah, ben, j'espérais que vous m'en parliez, parce qu'en fait, c'est la maison de Francis Savelle, c'est la maison du peintre donc, qu'on voit en train de dessiner le portrait de Patrick Jouanet. En fait, j'ai retrouvé ceci. J'ai regardé un de ses catalogues et j'ai reconnu la verrière.
Ah ben voilà,
avec ce beau contre-jour.
Oui, oui. Oh ben c'était un homme de goût, sans aucun doute, et puis surtout un homme de la lumière, du midi. Hein. C'est-à-dire qu'il avait probablement ça en commun avec Guy aussi, c'est qu'il aimait les lumières du sud.
Et cette maison était à Jouques, justement.
Ah, voilà,
je sais si vous avez des souvenirs de...
Alors, il me semble que nous y habitions, même, dans cette maison, parce que, par économie, hein, il devait avoir quelques chambres d'amis, et je pense que nous avons logé dans cette maison. Mais vous savez, quand on fait un film... On est dans une espèce de transe. Et c'est très curieux, justement, voyez, que je n'ai pas de souvenir précis ni de Francis Savelle, ni de cette maison, parce que la seule chose qui m'importait, c'était le film.
J'ai eu l'occasion d'aller à Jouques. J'ai eu l'occasion d'aller dans sa maison où il y avait encore sa mère à l'époque, et de voir des peintures qui étaient magnifiques. J'adore la peinture en général, d'une façon générale, les artistes peintres. J'ai savoir que j'ai posé quand même pour des artistes peintres, aussi pour des écoles. Hein.
Et la maison à Jouques, justement, sa maison, elle était comment?
Ah, c'était une maison du Midi, pas loin d'Aix-en-Provence, dans la Garrigue, une très belle maison ancienne. L'ambiance était très agréable. Je me souviens d'un moment où on était à Jouques, avec Jérôme aussi, on était tous les deux dans la même chambre, bien que nous n'étions pas amants, mais on était quand même très amis, et on n'arrivait pas à dormir. Hein. Et Gérard Béchu, qui était dans la maison, Gérard Béchu était, je ne sais pas exactement ce qu'il était, mais il devait être l'amant de... Il était avec Chantal... Ah, comment elle s'appelait? Chantal quelque chose, j'ai oublié. Et Gérard Béchu venait nous raconter des histoires, mais horribles, sur le bord de notre lit, à Jérôme et à moi. Et finalement, on faisait des cauchemars la nuit, dans cette maison... perdu dans la garrigue, mais on était là dans une ambiance tout à fait paisible, un endroit idéal pour le repos et la création, en tout cas.
Le peintre, Ina, février 1960.
L'avant-garde en peinture aujourd'hui, c'est le retour à l'art figuratif. Après le sombre Bernard Buffet, voici l'écarlate Francis Savelle. Connaîtra-t-il le même succès ? Il a les mêmes amis. Buffet, à ses débuts, peignait des arêtes de poissons. Pour sa première grande exposition, Savelle peint des taureaux et des matadors en pleine chair en une série de fresques monumentales. Voici donc la corrida vue par Savelle, et c'est peut-être un chef-d'œuvre.
Dès 60, il a cette première exposition qui commence chez à la Galerie de Rouen. Donc là, c'est quand même la galerie figurative de l'époque. Il est au bon endroit, au bon moment. Il présente des grands formats. C'est là une des particularités de Savelle. On fait du tauromachie. C'est le sujet à la mode. C'est l'influence de Picasso, qui était l'artiste franco-espagnol le mieux placé pour pouvoir peindre les taureaux et la tauromachie. Donc Savelle fait cette exposition. À cette époque-là, ceux qui faisaient des formats comme ça, c'était des artistes qui vendaient vraiment très très bien. Donc on retrouve quelques très beaux Bernard Buffet, Michel Thompson des années 50, très grand format. Là, Savelle, c'est assez incroyable de se dire qu'en 60 premières grosses galeries, hein, encore une fois, il est assez confiant en se disant « j'attaque des formats monumentaux ».
Je m'intéresse toujours à l'anarchie lorsqu'elle se présente sous le masque de l'ordre, lorsque le cheval bourré de soldats armés dupe la foule par son noble statisme. Voici en 1960 que Francis Savelle roule dans Paris un robuste cheval de Troie. Où allait-on ? Se demandent les naïfs en face de la peinture abstraite, convaincus comme les premiers navigateurs qu'il ne reste après qu'à tomber dans le vide. Mais le mouvement perpétuel de l'art boucle des boucles et déplace des lignes faites d'ondes et de nœuds. Mille manières de figurer attendent dans les coulisses, sans porter la moindre atteinte à cette période où les peintres voulurent vaincre la ressemblance.
Ensuite, il va avoir d'autres expositions, donc une exposition Galerie Reichenbach, avenue Matignon, en 63. Pareil, plutôt des grands formats. On voit tout de suite qu'il est dans un réseau artistique soutenu par les plus grands noms de l'époque, aussi bien les artistes. On voit que Cocteau lui écrit rapidement un texte.
Ce n'est pas l'écrivain qui se propose de saluer ici Francis Savelle. C'est un poète ayant eu la chance d'avoir à décorer de grandes surfaces, à résoudre le problème des plafonds et des arches. Mais si les voûtes romanes de la chapelle de Villefranche m'envoûtaient et m'aidaient en quelque sorte, que dire d'un jeune peintre en face d'immenses toiles plates et tenu d'en abolir la platitude, d'en creuser la surface jusqu'à ce que le spectateur y pénètre et meuve sa forme admise au milieu des formes encore inadmises, s'efforçant d'abattre par ce réalisme interne propre à chacun de nous le confortable mensonge des perspectives au milieu duquel nous avons la paresse de vivre.
Jean Cocteau a été très important dans la vie de Francis Alléry. Lorsqu'il a créé La Belle et la Bête, eh bien, Francis Alléry a participé au décor de La Belle et la Bête, du film. Ils se sont très bien entendus. Cocteau a cru en Salieri. Son ombre était présente dans le cœur de Salieri.
Pierre Berger également va un peu le présenter comme le nouveau Poulain après Bernard Buffet, ce qui est très malin de la part de Berger, puisqu'il a considéré que Bernard Buffet, c'était sa création, au même style que Saint-Laurent quelques années plus tard sur la mode. Et donc là, on sent vraiment dans les écrits de Berger qu'il essaye de propulser un deuxième artiste, toujours dans cette ligne figurative réaliste. Par la suite, il a une expo en Allemagne, donc en 68. On comprend que sa peinture, elle n'est pas commerciale. Et vraiment, elle vient des tripes. C'est un vrai artiste. Hein. Il ne fait pas de concessions.
Ne bougez pas. Taisez-vous. Attendez. Videz-vous de vos complexes et de vos dogmes, de vos certitudes abstraites ou figuratives. Et vous ne serez pas seul immobile. Car Francis Savelle vous prouve une fois de plus que l'art ne suit pas une courbe de mode et d'école successives. Que rien n'y dépasse rien. Et qu'il vibre sur place avec l'effrayante et profonde immobilité de la lumière. Jean Cocteau.
Mon cher Jean, je suis très ennuyé de ce que Pierre me dit. Malgré des ordres précis, la galerie ne vous a pas envoyé le catalogue de mon exposition. Sans doute aurais-je dû prendre le soin de cet envoi moi-même. Mais je n'ai pas besoin de vous dire ce que sont les époques de vernissage, où tout semble se coaliser pour vous démoraliser et vous engloutir sous toutes sortes de misères. L'honneur que vous me faisiez par cette préface admirable était si grand et rejaillissait si évidemment sur la galerie dont le nom figurait en tête du catalogue que je ne pouvais imaginer qu'il ne sentirait pas bien tout ce qu'à travers moi, il vous devait. Mais c'est ma faute, et voilà une bonne leçon. À l'avenir, je ferai moi-même ces choses où le cœur doit intervenir et l'intelligence. Pardonnez-moi, je vous prie, mon cher Jean, ce déplaisant accident. L'exposition a été plus qu'un succès, et sans doute les choses très belles et excitantes pour l'esprit que vous avez écrites sur moi ont-elles beaucoup aidé le public à trouver les beautés dans mes travaux. Je vous en remercie du fond du cœur. Je viens de passer 3 semaines à Saint-Tropez, et j'ai fait une quinzaine de grandes aquariums.
Sur la rétrospective en Allemagne, sur la une du catalogue, il y a une femme nue, donc un couple qui, après un câlin visiblement endiablé, la femme se lève et les corps sont très proches de ce que faisait Francis Gruber. Vraiment, on avait cette peinture très réaliste ou très marquée. Les corps sont, on voit les muscles, on voit les seins de la femme qui tient sa serviette, tout ça est assez dur. Alors pour le coup, on n'embellit pas du tout la réalité. Et c'était vraiment la signature de sa, c'est que dans tous ces tableaux, on voit vraiment une technique qui se rapprocherait, on va dire, dans les peintres anglais, de la peinture anglaise contemporaine. Donc bien sûr, je pensais à Francis Bacon, on pense à Lucian Freud, où l'idée, c'est ne jamais embellir les corps, donc les rendre les plus réels possibles, dans le mouvement, dans presque une certaine douleur dans les visages. Voilà, donc on sent à la fois le un peu l'érotisme de cette scène, qui vraiment Savelle, dans chaque peinture, il y a quand même un côté érotique très réaliste. Puis les femmes avec toujours ce regard un peu désabusé, un peu triste. Il y a une mélancolie dans chacun de ces personnages. Donc c'est vraiment une très belle peinture qui se rapproche en fait de la peinture classique aussi. On voit sa formation. Ça pourrait être de la peinture ancienne. C'est particulièrement bien exécuté. C'était techniquement un très grand peintre.
9 rue Bochard de Saron, 9e, Paris. 17 avril 1963. Mon cher Jean, les remous provoqués par la chapelle sont plus ou moins calmés, ou plus exactement, ils s'éloignent de moi et ne m'intéressent plus directement. Je peux enfin me retrouver devant mon travail et penser aux choses à faire.
Entre-temps, il y a une commande pour une église. Ça se faisait énormément à l'époque. La plupart des artistes, même les plus communistes, les plus athées, l'ont fait. Malheureusement pour lui, comme souvent, une fois que l'œuvre est terminée et validée, l'Église catholique française s'oppose à l'installation des œuvres. Alors, c'est arrivé, le plus célèbre, c'est Germaine Richier, le plus célèbre cas. Donc, le pauvre Savelle connaît ça. Il va jusqu'au procès. Malheureusement, il perd en appel. Donc là, comme beaucoup d'artistes, quand vous perdez en appel ou que vous voyez votre œuvre déplacée sur un rond-point en banlieue d'une ville alors que vous étiez en pleine ville prévue pour une station de métro ou une église, ça fait vraiment beaucoup de mal. Vous en prenez pour votre ego, vous avez l'impression que votre art n'est plus compris. Donc je pense que Savelle, au fond, s'en remet assez difficilement.
Je termine maintenant dans un calme approximatif les peintures et les dessins du grand bestiaire. Est-il besoin de vous dire le plaisir que vous me ferez en venant les voir et en me disant votre sentiment sur leur destin et que votre heure sera la nôtre? Gérard Béchu ira vous chercher quand il vous plaira, si cela vous arrange. Venez vite, mon cher Jean. J'ai hâte de vous voir et de vous entendre parler. Je vous embrasse, Francis. Mon téléphone est Lamartine, 81-84.
La première partie de ma vie a été consacrée à la peinture. Depuis l'âge de 18 ans jusqu'à
à tout cœur,
l'âge de
1986.
40 ans, j'ai été peintre. Et il s'est trouvé que j'ai fait des choses qui ont existé sur le plan de la peinture. Et il y a eu une grande rétrospective de moi en Allemagne, à Cologne, en 1968. Et j'ai été surpris, enfin, pas par les événements de mai 68, parce que je les attendais comme tout le monde, et je les imaginais, de quelque façon je les espérais, mais j'ai été surpris géographiquement. J'étais en Allemagne, je suis revenu à Paris, j'ai été cueilli par cette espèce de violente explosion de jeunesse, et tout d'un coup, j'ai comparé l'espèce de solitude de l'atelier du peintre. Il n'y a pas une solitude plus grande qu'un peintre devant sa toile. Bon, c'était une magnifique solitude. Mais à ce moment-là, j'ai eu cette espèce de violence, de vertige en face de cette espérance de la jeunesse, et j'ai voulu en quelque sorte la rejoindre. Et la seule façon pour moi de rejoindre la jeunesse, c'était le spectacle. C'était au fond de mettre en scène la jeunesse. Et c'est comme ça que j'ai imaginé mon premier spectacle, en 69, qui a été mon premier spectacle de la Grande Eugène. Et à ce moment-là, je n'ai pas voulu qu'une confusion s'opère entre mon travail de peintre et mon travail d'homme de spectacle. Et au fond, bon, j'aime Mozart, bien sûr, qui, je crois que si Mozart n'existait pas, vivre serait un peu moins intéressant. Et j'ai pris ce nom de Salieri, qui est le nom de l'ennemi de Mozart, un peu par dérision vis-à-vis de moi-même, un peu par dérision vis-à-vis de l'espace que je mettais entre ma jeunesse de peintre et mon âge mûr d'homme de spectacle.
Monsieur Klein, de Joseph Losey, 1976.
Joseph Losey appréciait énormément le travail de Francis Savelle, alias Franz Salieri, dans son cabaret La Grande Eugène. Il l'appréciait à tel point qu'en 1973, il a eu l'idée de faire avec Salieri une comédie musicale, une satire sur l'affaire Watergate, qu'il comptait coproduire.
Denitsa Bancheva, écrivaine et critique.
Et donc, c'était la troupe de la Grande Eugène qui devait, du début à la fin, occuper l'écran. Alors, c'était un projet, malheureusement, qui n'a pas pu être financé parce que ça faisait peur aux potentiels coproducteurs. Donc, c'est tombé à l'eau. L'étape suivante, ça a été la préparation de M. Klein. Quand Losey a eu l'idée d'inclure dans le scénario une scène de cabaret, elle ne figurait pas dans le scénario d'origine, en fait, la scène du cabaret antisémite. Et l'idée de Losey, c'était de montrer l'antisémitisme d'une façon qui le rende particulièrement rebutant et qui le mette à distance. Alors, cette séquence, elle est très particulière dans le sens où elle implique des bizarreries qui ont vraiment frappé le public et la critique de l'époque. La première bizarrerie, c'est que vous avez une figure de, naturellement, c'est un homme travesti, une figure de veuve qui chante un lied de Gustave Mahler. Donc déjà, pour une scène de cabaret, c'est extrêmement surprenant. Et puis, c'est une chanson qui fait partie des Kindertotenlieder, autrement dit, des chansons sur la mort des enfants. Et un peu plus tard, au cours de la séquence, vous avez un autre personnage qui chante « Premier rendez-vous », la chanson à la mode de l'époque. Et donc, la scène du cabaret a fait couler du fiel parce qu'elle était considérée comme totalement invraisemblable. Il y a des commentaires du genre de « Où vouliez-vous trouver un cabaret avec des travestis à Paris en 1942 ?» etc., etc. Beaucoup de gens dont c'est le métier ne comprennent malheureusement pas que les artistes puissent faire autre chose que du réalisme. Et Losey a toujours dit qu'il ne faisait pas de réalisme.
Je crois que pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est de la notion d'image. J'aurais pu aussi bien ne pas rechercher, à partir du moment où j'ai fait du spectacle, vous voyez que j'emploie avec réticence le mot théâtre, je ne me suis même pas posé la question, je ne me suis même pas imaginé une seconde que je pourrais faire du théâtre de texte. Non, ce qui m'intéressait, c'est pour ça que j'ai aimé également l'opéra, et c'est pour ça que j'ai fait Don Giovanni avec Losey au cinéma. Pour moi, je pense que le spectacle, comme le mot l'indique, c'est l'image, et que son support naturel, c'est la musique. Sorti de ça, le reste m'emmerde.
Joseph Losey avait un grand attachement, en règle générale, aux gens qui savaient peindre. Il aimait avoir autour de lui, avoir sous la main, si j'ose dire, des gens capables de dessiner et de peindre avec une grande précision et qui puissent, par exemple, sur ses idées, faire des dessins ou des peintures à montrer au chef opérateur. Et je pense que le fait que Francis Savelle soit peintre a joué favorablement, tout comme le fait que c'était un musicien accompli, à mon avis, ça a joué très favorablement aux yeux de Losey.
La notion d'image est une notion, alors là, qui est tellement merveilleuse pour moi. Tout m'est image. Il y a quelquefois où je pense que je finirai ma vie avec les yeux usés, tellement j'aurais regardé dans ma vie, tellement j'aurais été passionnément regardé.
On va parler de Don Giovanni, il y a beaucoup de matière, puisque là c'est une vraie collaboration. Au générique, le deuxième nom qu'on voit apparaître en aussi gros que celui de Joseph Losey, c'est Franz Salieri. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Il a eu de l'importance dans ce film à plusieurs titres. Premièrement, pendant la préparation, Joseph Losey a eu des moments de grands doutes et de grandes hésitations parce qu'il avait peur de se confronter précisément à Mozart. Il était mélomane depuis son jeune âge. En revanche, il n'était pas compétent en musique classique. Donc, le premier rôle de Franz Salieri dans cette histoire, c'était de travailler sur l'adaptation aux côtés de Losey et de sa femme. Son deuxième rôle, c'était de bien familiariser Losey avec cet opéra précis de Mozart, y compris en lui jouant des airs au piano, pour pouvoir l'aider à préparer les récitatifs, parce qu'en fait, même si la totalité de l'opéra a été enregistrée avant le tournage, Losey a tenu absolument à enregistrer les récitatifs une seconde fois en temps réel pendant le tournage. Et Francis Savelle, qui était présent tout au long du tournage, lui a rendu un sacré service un soir où Jeanine Reyes, qui jouait du clavecin pendant les récitatifs, était rentrée parce qu'en fait, par un malentendu, le régisseur du plateau croyait qu'on n'avait plus besoin d'elle. Il l'avait envoyée se coucher. Et donc, quand il s'est avéré qu'elle n'était plus là, Francis Savelle l'a remplacée au pied levé tout de suite. Donc, il a été très utile aussi comme, en quelque sorte, formateur musical de Joseph Losey et même un tout petit peu comme accompagnateur. Et puis, le troisième aspect, et qu'on peut considérer aussi comme un aspect très important de son travail, c'est sa participation au costume. Quand on préparait le film, ils étaient tous les trois, Patricia, Joseph et Francis Savelle, chez Francis Savelle à Aix-en-Provence. Et le matin, ils s'occupaient de dessiner des costumes pour pouvoir les montrer à Losey et en discuter ensuite. Et puis l'après-midi, ils avaient les séances de travail sur le scénario à trois. Et je pense que la contribution de Francis Savelle, alias Salieri, au costume est vraiment très importante dans ce film parce que elle est complémentaire avec le travail de la costumière de métier, grande costumière italienne, Annalisa Nasali Rocca, avec laquelle Losey travaillait pour la troisième fois. Et les costumes les plus réalistes sont très certainement d'elle et non pas de Francis Savelle. Quand vous regardez les costumes des personnages les plus importants, vous vous rendez compte que ce sont d'une part des costumes invraisemblables. Je veux dire, ils ont de vagues airs de 18e siècle, mais ce n'est absolument pas ça. Et d'autre part, certains d'entre eux sont stylisés d'une façon absolument outrancière. C'est très, très étrange, mais c'est pour vous dire que la contribution de Francis Savelle au costume, elle va tout à fait dans le sens de la stylisation voulue par Losey pour ce film qui ne devait surtout pas paraître réaliste.
Équation à un inconnu de Francis Savelle, 1979.
Équation à un inconnu, réalisé pendant l'hiver 1978, en début d'année, est un film sombre, triste et narcissiquement oedipien.
Hervé-Joseph Lebrun, dictionnaire des films français pornographiques et érotiques.
Probablement le dernier titre des productions du Verbois. Il clôt leur série de films pornographiques gays. On y voit la fin d'une époque et le début des adieux. Ce film est exemplaire pour son équipe technique et pour son casting. Dietrich de Velsa est le pseudonyme d'un célèbre scénographe, Franz Salieri, ami de Jacques Scandellari qui supervisait alors les productions du Verbois. C'est sa seule réalisation au cinéma et c'est un coup de maître.
Tire !
Francis Savelle, je l'avais découvert à la Grande Gêne. Et souvent, il m'offrait à boire à la Grande Gêne. Il m'invitait quand il faisait un nouveau spectacle. Et il me dit, j'aimerais faire un film. Mais, ah bon.
François About, chef opérateur.
Et donc, je lui ai dit, je vais faire travailler mon équipe comme électro. Donc Nasser, qui était mon ami à cette époque, a fait un rôle dans le film. Éric Guédanien, qui était mon chef machiniste, c'est lui qui joue au football au début. Et donc un autre amant, marocain, aussi a tourné. C'est-à-dire que j'ai fait tourner mes techniciens comme acteurs. Et ils ont accepté, ils ont dit pas pour Francis, mais pour parce que c'était moi. Mais il faut dire qu'on tournait en moins d'une semaine, hein, ces films.
ces films-là étaient quand même diffusés dans des salles spécialisées, dans le cinéma pornographique homosexuel.
Hervé-Joseph Lebrun, plasticien, réalisateur et chercheur.
Il y en a deux qui étaient très connus, c'était Le Dragon, Rue du Dragon, qui appartenait à Norbert Terry, qui était donc aussi lui-même producteur et réalisateur. L'autre salle très connue, c'était La Marotte, rue Vivienne, qui appartenait à Anne-Marie Tensi, qui était elle aussi productrice et réalisatrice.
Équation à un inconnu, il a été projeté alors, au Dragon.
Exactement. La figure principale déambule dans un Paris de banlieue et d'ouvriers, sur des routes d'hiver où l'on aperçoit au loin les bétons des tours et des périphériques. Il y a de la nuit et des parpaings, une pompe qui distille son plein pour jouir des odeurs d'essence et de cambouis, des virées en moto dans le froid, des réchauffements obscènes, des orgies dans les vestiaires et des masturbations au petit matin. En fait, on ne se rend pas compte que c'était vraiment le début de la pornographie homosexuelle. Il y a eu quelques films porno-homo dans le muet, dans les années 10, les années 20, qui n'étaient pas forcément distribués, qui étaient faits pour des collectionneurs ou voilà. À partir de 75, commence à sortir en salle le premier porno homo. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de VHS. Il n'y avait pas d'autre moyen de voir les films que ces cinémas-là. C'était des pionniers. De Velsa propose un film complexe et techniquement remarquable.
J'ai fini mon service. Vous voulez pas m'emmener faire un tour ?
Cette construction temporelle, appuyée par les sons et bruitages exagérés, amplifiés, comme les ululements, les rires et les pleurs d'enfants, le bruit de l'eau qui coule, propulse sa spirale dans une dimension freudienne. L'action, les désirs sous-tendus, résultent de fêlures d'enfance dont ces sons sont aujourd'hui résurgence. Les comédiens, comme les unités spatiales, sont ciselés, rien n'est dit, ou presque. La grande sensibilité de réalisation, mélancolique et angoissée, fait du film un essai cinématographique, documentaire et pornographique, où le point de vue se ferait depuis une société finalement homonormée. Le stade et les équipes de footballeurs, le bar et les ouvriers des chantiers en construction alentour, la station-service et son pompiste, sont des lieux qui distillent de la testostérone et, particularité du film, ils ne sont fréquentés ici que par des hommes homosexuels.
Dans le film, il y a une richesse de lieux.
Eh oui.
Ils savaient déjà.
Ah, ben ça, les lieux, on les repérait avant. Ah oui, moi j'étais très obsédé par ça. Quand ils prennent leur douche, c'était prévu avant. Ça, j'avais.
Et les scènes de moto.
Ah oui, j'ai fait beaucoup de scènes de moto. Savelle aimait probablement ce que je faisais. Il montait tout. Il débutait aussi, Savelle. On discutait tous les deux avant, quoi. Et donc, j'apprenais quand même à Francis Savelle comment on peut raccorder dans deux décors différents et la même séquence. Je veux dire, lui, il découvrait ça quand même.
C'est un produit plus élaboré qu'à l'ordinaire, dont deux séquences principalement sont, par leur force d'évocation, à même de catalyser l'émergence du désir homosexuel au sein de la libido la plus orthodoxe. La première, les vestiaires d'un terrain de sport, laisse évoluer en temps réel ou presque les gestes de massage d'un jeune footballeur sur le corps de son camarade blessé, en caresse anolinguale puis manuelle, jusqu'à la conclusion logique, laissant transparaître les phases essentielles et la montée progressive du désir de l'homme pour l'homme.
Quentin Grosset, vous êtes journaliste, auteur d'un article sur Équation à un inconnu de Francis Savelle. La bande-son y est très particulière, on y entend des cris d'animaux, des pleurs d'enfants. Qu'est-ce que cela vous évoque ?
Je dirais que ça participe à une ambiance générale qui tend à aller vers le mortifère. Par exemple, je crois qu'il y a La jeune fille et la mort de Schubert. Dans un film porno, ça vous pose une ambiance tout de suite. J'ai jamais vu ça, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre presque... Que ce soit dans la bande sonore ou dans les chorégraphies, dans les étreintes, etc., il y a quelque chose à chaque fois de l'ordre un peu de la cérémonie aussi, du sacre. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très solennel qui s'en dégage. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'avais jamais vu nulle part.
Il faut que ce soit à moi.
La seconde nous initie à un rituel érotique.
Que ce soit toi qui le veuille.
Dans le hall d'un atelier de mécanique, où de jeunes ouvriers nus, debout, se masturbent lentement autour d'un garçon couché, dans une atmosphère étrange, par son caractère à la fois religieux et obscène.
une musique d'orgue obsédante et sépulcrale, l'enceinte sacrée, formée par les motos rutilantes de chrome qui entourent ces mystagogues inconscients de la révélation pédérastique, le tressaillement quasi mystique des chairs irradiées par l'orgasme. Voilà un beau travail de déchiffrement héraldique pour les futurs sémiologues de l'homosexualité masculine. Bernard Millet, la saison cinématographique, 1980.
C'est pas comme dans un film porno hétéros de Dorcel. Je veux dire que les mecs, on leur demandait même pas de bander. Savelle voulait que ce soit naturel, quoi. Moi, ce qui me plaisait avec Francis Savelle, c'est qu'il trouvait bien que je filme des choses que personne n'aurait filmées, comme un mec tout simple qui se déshabille, toi, qui ne fait rien sexuellement et tout.
Il y a une sensualité, voilà, en plus du côté porno. On a l'impression que c'est hors cliché, voilà, de l'homosexualité, comme on pourrait
dire. C'est ça qui les qualités de ce film. Dans ce milieu où les homosexuels étaient quand même prêts à tout, mais à se cacher, comment un garçon pouvait draguer un autre garçon d'une façon naturelle, quoi. Voilà, c'est ce que m'avait dit Savelle, ce qu'il voulait. Donc ce film, c'est une somme de plans qui n'existe pas dans le cinéma hard, quoi. Et j'ai été étonné quand même que ce film fonctionne.
Je t'ai rien demandé. C'est toi qui t'accroches à ma queue, non ?
Je pensais qu'on allait faire d'autres films ensemble, et puis bon. Il a encore en vie ? Non.
Non.
Ah oui.
Il est mort en 2005.
Il a réalisé Équation inconnue, et après ça, on a perdu sa trace. Nous savons qu'il vivait dans un village dans le sud-est. Et après, il a déménagé à l'île de la Réunion, où il a probablement fini ses jours.
On a vécu beaucoup de choses ensemble, c'est sûr. Mais non, je n'ai pas souvenir qu'il soit. Il racontait des choses de son passé. Je ne sais pas à quel âge il est mort. Il ne devait pas être jeune.
76 ans, en fait.
76 ans.
Ouais, ça fait 20 ans qu'il est décédé.
Je ne crois pas qu'il ait eu d'enfant.
Francis Savelle est un personnage secret. Il ne parlait pas de sa vie. C'était presque un torturé. Je ne sais pas si beaucoup de gens savent la réalité de son existence. Franz Salieri est décédé en 2005, mais finalement, personne n'en a parlé. C'est-à-dire, je n'ai aucun souvenir d'un article de presse sur Salieri. J'ai vu ça sur Internet quelques années plus tard. Et je pense qu'il est mort dans la plus grande discrétion et dans la plus totale indifférence, alors qu'il méritait autre chose.
Mon article, il est comme Équation d'inconnu. Il repose sur un mystère et il reste un mystère à la fin. Après la publication de l'article, il y a des gens qui m'ont contacté pour me donner d'autres histoires de Savelle.
D'accord.
Et c'est son petit-fils, en fait, qui m'a contacté via Instagram et qui m'a demandé « Mais pourquoi vous avez fait un article sur mon grand-père ?» Et il m'a envoyé une photo de Francis Savelle où il apparaît vraiment, je pense, à la fin de sa vie, puisque c'était en 2005, dans une piscine. Il avait l'air très heureux. Enfin, il y avait un côté vraiment très, très jovial, en fait. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu, à voir.
Oui, allô ?
Aurélien ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Vincent Puren.
J'ai ma mère, mon Chantal, qui est juste à côté de moi, donc voilà.
Bah, très bien.
Bonjour.
Bonjour, enchantée.
Je suis Chantal Courquemont. Ben, moi, j'ai été l'épouse de Monsieur Béchu, Gérard. Bon, j'ai fait ma vie complète avec Gérard et Francis depuis les années 69.
Racontez-moi un peu cette rencontre, justement, avec Francis Savelle.
On était quatre dans le restaurant chez Michou. J'étais en train de dîner. Francis et Gérard étaient des grands amis toujours. Et c'est là que j'ai connu Gérard.
Et ensuite arrive l'ouverture de la Grande Gêne.
Oui, absolument.
Et là, vous faites partie de l'aventure.
J'étais vestiaire à l'époque à l'entrée. Et donc, on descendait un escalier et moi, je tenais le vestiaire. On travaillait en famille, quoi.
Il apparaît souvent comme quelqu'un d'assez mystérieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti à l'époque ou...
Non, non, il n'était pas mystérieux. Il était seulement... Ben voilà, il avait une personnalité importante et c'est vrai que quelque part, bon, il a fait pas mal de choses, Francis, sur le plan du spectacle, sur le plan de la peinture, il a fait tellement de choses, c'est même insensé.
Vous parliez de ses toiles, donc vous avez pu en récupérer, c'est ça ?
Oui, presque toutes. On a eu deux grosses caisses qui sont arrivées de Métropole Et donc, c'est des formats qui font, je sais pas, 2 mètres sur 5.
Est-ce que vous étiez au courant de sa réalisation d'Équations à un inconnu ?
Ben moi, non. J'en ai entendu par Aurélien, qui avait eu une personne qui lui en avait parlé, qui avait été très réussi, paraît-il.
Oui, oui, c'est un très beau film. Il est très, très singulier, justement. Il est très à part.
À chaque fois que Francis touchait quelque chose, ça a été une véritable réussite.
Merci beaucoup.
Je vous passe Aurélien.
Super.
Au revoir.
Oui, du coup, bonjour.
Rebonjour Aurélien, bonjour. Donc vous, comment avez-vous connu Francis et qui il était pour vous ?
Alors, Francis et Gérard, c'était mes parrains. Et ils s'occupaient de moi, voilà, ils sont depuis toujours, en fin de compte, depuis ma naissance jusqu'à leur mort. Presque tous les ans, j'allais en vacances chez eux, ou à Jouk, ou à Tunis. Beaucoup de gens pensaient que c'était un couple, même dans le village, il y avait des gens qui faisaient des liens en disant que Francis est dans les hommes, bon, voilà, il pouvait peut-être être un couple et tout. Or, pas du tout. Ils ont été surtout, principalement, des amis de vie, vraiment. Je pense que ça arrive vraiment dans une vie. Le lien que j'avais avec Francis, on va dire que c'était mon grand-père de cœur, et le lien que j'avais avec Gérard, c'était mon père de cœur. Francis, c'était un vrai grand-père. Il était très tendre, vraiment, avec moi. J'ai pas du tout l'image que beaucoup m'ont décrit de lui, si vous voulez, où on disait que c'était un homme très dur. Puis je pense que ma naissance a dû jouer un rôle dans son caractère. Mais en 1995, quand ils ont vendu la maison, justement, de Jouk, ça a été vraiment une vente assez particulière. Ça s'est fait à contre-cœur. En gros, ils se sont fait avoir. D'où leur départ, on va dire rapide. Ils sont venus tout de suite après la vente de la maison sur l'île de la Réunion. Ils ont passé 2 ans ici en pensant qu'ils pouvaient peut-être vivre là. Mais bon, Francis est très particulier. Il a un caractère très, très fort. Donc, il lui fallait beaucoup de choses. Et malheureusement, ces beaucoup de choses, financièrement, ne suivaient pas ici. Donc, ils ont voulu, après, partir à Maurice. Ils ont vu Madagascar, mais bon, les conditions sanitaires à l'époque, c'était pas trop ça. Et au final, ils sont allés en vacances un jour à Tunis. Et à Tunis, ils ont trouvé un appartement, mais qu'ils ont refait complètement, en plein centre de Tunis, avenue de Paris, voilà. Et puis, un jour, Francis est venu en vacances ici à La Réunion. Et tellement il était content, il était en première classe, et tellement il était content sûrement de rentrer... Il s'est empressé sur la nourriture et il s'est étouffé avec le repas de l'avion. Et comme c'est quelqu'un qui était bien portant, Francis Savel, c'était un beau gabarit, ben du coup, personne n'a été capable de le soulever de son siège et il est mort étouffé comme ça dans le fauteuil de la première classe. Et c'est pour ça qu'ils l'ont rapatrié après sur l'île de la Réunion le 1er février 2005.
Au fond, la création se résume à cela. La toile est terminée. Maintenant, elle est donnée au temps. Dessus, les jours vont passer. Elle connaîtra ce temps qui nous échappe.
Avec Jacques Pessy.
Comment lui résistera-t-elle ? Combien de regards se poseront sur elle ?
Jean-Claude Dreyfus.
Le départ pour l'île inconnue d'une toile est un voyage chaque fois hasardeux.
Pierre-François Garcier.
Mais pour le peintre, l'aventure ne cesse jamais.
Masha Meril. Denitsa Bancheva. Hervé-Joseph Lebrun. François About. Quentin Grosset. Aurélien et Chantal Coquemont. Merci à Hervé-Joseph Lebrun, Joël Barguil et François Moulignat, Pierre Missica, la bibliothèque Kandinsky du Centre Beaubourg, la bibliothèque des archives de Paris.
Quand Francis est mort, tout le monde était très attristé parce que c'était quelqu'un de très humain. Malgré tout ça, malgré son fort caractère, il avait ce côté humaniste où il aimait profondément les gens.
Lecture. Yann de Monternot, Hélène Losseur et Olivier Martineau. Archivina. Véronique Jolivet. Prise de son. Martin Troadec, Nicolas Mathias, Julie Garraud et Grégory Wallon. Mixage. Guillaume Ledu. Chargé de programme. Sandrine Chaperon. Coordination. Emmanuel Laurentin. Francis Savel, Salieri, 1928-2005, Les métamorphoses d'un artiste flamboyant, un documentaire de Vincent Purène, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.